Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ils ont volé, triché, dealé, tué, kidnappé. Pour la justice, la société, aux yeux de tous, ils sont coupables, ce sont des salauds, ils sont du mauvais côté, ça ne fait pas de doute. Mais pour peu qu'on les écoute, qu'on y regarde de plus près, voici que surgit en eux quelque chose de commun, de proche, un je ne sais quoi qui les rend semblables, le prix qu'ils ont payé peut-être, une part d'humanité, si grande ou petite soit-elle. Salaud, mais pas trop, c'est comme ça qu'on a appelé cette série « Sur le fil du rasoir », à vous de juger si le titre tient la route ou s'il faut la renommer « Salaud, carrément salaud ». La première histoire commence le 23 janvier 1978, lorsque tombe la nouvelle de l'enlèvement du baron Empain. Les suppositions vont bon train sur l'identité et les motivations des ravisseurs. L'époque est au commando de gauchistes extrémistes, comme l'écrit le Figaro, qui rappelle un an plus tôt le kidnapping de Hans-Martin Schleyer, président du patronat de la République fédérale d'Allemagne, par la bande à Bader. Il faut dire qu'Edouard Jean Empain est à la tête d'un empire de centaines de sociétés qui pèsent des milliards et qu'il est aussi à l'époque l'homme du nucléaire. On spécule sur un mobile écologique de son enlèvement, le crime crapuleux n'est pas la piste privilégiée. L'État français est sur les dents, un état-major de crise est convoqué, 30 000 gendarmes sont sur le pied de guerre. Le garde des Sceaux, Alain Perfitte, en appelle à la délation des criminels, l'occasion pour le chef de l'opposition François Mitterrand de dénoncer un, je cite, « recul de civilisation ». Le baron Empain restera 63 jours en captivité. Alain Cayol, l'un des cerveaux de l'opération, tombe ensuite entre les mains de la police le 24 mars 1978, suivi par ses complices quelques mois plus tard. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle, Alain Cayol restera 11 ans derrière les barreaux avant d'être à nouveau condamné et renvoyé en prison en 2001 pour trafic de cocaïne. Il en est sorti en 2009 et a revu récemment le baron Empain qui lui a, dit-il, serré la main. Salaud mais pas trop, premier épisode donc, c'est avec lui et c'est bien sûr une série exceptionnelle de Pascal Pascariello dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je m'appelle Alain Cayol, je suis né en 42, donc j'ai 75 ans. Je suis un enfant de la bourgeoisie moyenne. Sauf que mon père, c'était un monsieur que je connaissais pas. Alors, ma mère, encore moins. Dès que j'ai eu 7 ou 8 ans, je suis parti en pension. Donc, j'étais un petit garçon livré à lui-même, sans aucun repère. J'ai fait dans la vie, dans la délinquance, qui s'est transformée en criminalité. Et puis, comme j'avais des capacités, j'ai fait de plus en plus grave. Au lieu de monter les échelons dans une profession quelconque, bah, j'ai monté les échelons dans la délinquance puis la criminalité pour arriver à faire des délits ou des crimes de plus en plus graves. Bon, j'ai commencé à voler tout jeune. J'ai dû aller faire des séjours linguistiques en Angleterre ou en Italie. Et là, je raflais des disques, des pulls en cachemire, machin. Je devais faire 1m10 de haut. Alors, pourquoi je volais, je saurais le dire. Après, ça a été s'introduire dans des villas, enfin, voilà. Et puis, logiquement, vous arrivez un jour ou l'autre en prison, et là, vous rencontrez des types qui ont des armes, qui braquent, etc. Bon, c'est là, vous voulez absolument faire comme eux. Et là, j'ai commencé vraiment à faire du banditisme. Quand vous volez de l'argent. Bon, où est-ce qu'il y en a le plus? Comment on fait? Quel risque on prend? Et puis, à ces époques-là, eh ben, tout de suite, vous allez au braquage. Donc moi, à cette époque-là, j'ai à peu près 25 ans, je suis marié. J'ai un enfant qui a 1 an. Je suis parti à Montpellier où je travaille dans un magasin de meubles.
Vous vendez des meubles, mais à côté, vous continuez à faire des braquages.
Bien sûr, parce que c'était un mode de vie. Donc je continuais à faire des braquages, bien que... Pour la plupart des gens, je gagnais bien ma vie, honnêtement. les seuls moments sympas que j'avais dans ma vie, c'était avec mes compagnons de délinquance. Tout le reste de ma vie, c'était pourri. Quand j'entrais chez moi, c'était pourri. C'était pourri. Parce que ma femme était paranoïaque, mais une vraie. Là, je commençais à être moins amoureux quand même. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que je divorce. Je lui en ai parlé une fois. Elle m'a dit, si tu veux divorcer, je te balance au flic. Je me suis dit, bon, je vais me remonter un paquet de fric. Je vais lui donner un gros paquet. La première ébauche a germé là. Au lieu d'aller chercher l'argent, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire venir à nous ? Bon, alors, en novembre 76, on lance l'idée, où l'idée vient, que du kidnapping. L'idée, elle est actée, elle a séduit tout le monde, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens. On va d'abord remonter de l'argent.
En faisant un braquage ?
En faisant un braquage. On est quatre. Alors, il y a mon copain Daniel Duchâteau, il y a un garçon qui s'appelle Lydir, et un autre, Mathieu. Chacun a mûri dans sa tête pour jeter les bases. Si on fait ça, on fait comment ? Quand on a sorti le mot « kidnapping », kid, c'est un enfant. On ne peut pas quand même faire ça. On n'est pas des salauds. Donc on a éliminé ça. Entre novembre 76 et janvier 78, le kidnapping se prépare. On a monté un kidnapping sur du papier. Alors, comment faire un kidnapping ? Nous, on est parti de la fin. C'est-à-dire, comment on touche la rançon ? Voilà, on a fait ça à l'envers. Et on a dit, il faut faire en sorte que la police et nous, ça soit impossible d'avoir un contact physique. Et moi, j'habitais déjà à Montpellier. Je montais donc souvent à Paris. Et en redescendant de Paris sur Montpellier, à main gauche, sur l'autoroute, il y a un mur anti-bruit dans lequel il y a des portes, ils sont apparentes. Et je m'aperçois qu'en fait, le mur anti-bruit, c'est un tunnel avec des portes qui donnent sur l'autoroute et des portes qui sortent de l'autre côté, sur la Hélero, sur une banlieue. Et je me suis dit, c'est là. Donc, l'histoire de la rançon, on l'a trouvée. Si vous faites arrêter la personne qui vient vous apporter de l'argent et que vous, vous êtes dans le mur, quand le type vient, vous êtes à un mètre de lui. Donc vous sortez, vous lui mettez un fusil sur la tête et c'est réglé. Et vous êtes dans le mur. Si la police s'arrête sur l'autoroute, etc., tout ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'on leur tire dessus et ils ne peuvent pas rester.
Et vous pouvez partir de l'autre côté.
Et on part de l'autre côté, une fois que vous avez fermé cette porte. La seconde idée, pour être payé vite, etc., l'effet de sidération, comment on fait ? Bon, on va lui couper le petit doigt. Alors après, la planque, je ne sais plus qui c'est, il y a un de nous qui jouait, quand il était gosse, dans des souterrains de la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas, 30 ou 40 kilomètres de Paris, enfin un truc de fou. On y est allé et on s'est dit, c'est là. Alors là-dedans, noir absolu, pas d'eau, pas d'électricité, rien. On s'est dit, c'est là. Et alors après, qu'est-ce qui reste ? Il ne reste pas grand-chose parce que nous, on veut faire quelque chose de rapide. Il faut que ça dure maximum une semaine. On l'enlève, on lui coupe le doigt, on envoie le doigt avec ses papiers d'identité, etc. On dit, ça fait tant. Et à partir du moment où ils disent OK, on donne le rendez-vous. En gros, le schéma, c'est ça. Après, ben, qui c'est qui va être notre victime ? Il y avait Dassault. Il y avait les Rothschild, il y avait déjà Madame Bettencourt. On savait que les conditions allaient être très difficiles puisqu'on avait trouvé l'endroit introuvable. Du reste, qu'ils n'ont pas trouvé. Mais cet endroit introuvable, c'était les conditions très difficiles. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de sanitaire. Donc vous faites vos besoins dans un seau, vous lavez je ne sais pas quand, et puis vous bouffez des boîtes de haricots, si ça va bien. Gérer une femme... On se la sentait pas trop.
Vous vous êtes dit, pour une femme, ça va être trop compliqué. Non. Vous étiez que
non,
des hommes.
Non, non, on ne s'est pas dit pour une femme, ça va être compliqué. C'était notre pudeur masculine. Du reste, on a eu tort parce qu'on aurait touché sans problème. Il y a le gain personnel, le côté crapuleux qui a le dessus. Mais en produits dérivés, si on peut mettre une claque au CNPF et un de ses représentants, le faire lui descendre un peu à la cave et voir ce que c'est que bouffer des boîtes de haricots, ben voilà, ça nous déplaisait pas. Alors Dassault, bah, ça c'est une histoire politique. Bon, Dassault, nous on connaissait, après, quand on s'intéressait un peu à la politique, on connaissait son parcours, on savait qu'il a été déporté, que les communistes lui avaient sauvé la mise, qu'il avait depuis toujours eu un faible pour le Parti communiste. On s'est quand même dit qu'il avait suffisamment morflé et que c'était peut-être pas la peine d'en rajouter. Et puis, le Canard Enchaîné, à l'époque, c'était les grands licenciements en Lorraine et dans le Nord, enfin. Et toutes les semaines, où tout Empain y avait droit. Dans un article, il était indiqué qu'Empain avait, enfin le groupe Empain, avait embauché des milices patronales pour remettre tout le monde d'équerre. La conclusion de l'article, c'était le baron Empain faible pour les durs ou un truc comme ça, où le baron Empain aime les durs. Et on s'est dit, bah, c'est notre homme celui-là. Voilà, il aime les durs, il va voir comment c'est. Bref, on s'est mis à planquer à la sortie de ses bureaux et son appartement.
Il habitait où à ce moment-là?
Il habitait à Nifoche. On s'est aperçu que le chauffeur, il passait tous les matins, je ne sais pas, à 10h, à 10h un quart. En plus, dans l'avenue Foch, il y a une contre-allée. Si vous bloquez la contre-allée, personne ne passe derrière vous. C'est idéal. Donc on a mis en place un dispositif, c'est-à-dire une voiture devant, un camion derrière. Il était fait comme un rat, quoi. Quand il est monté dans sa bagnole, on l'a enlevé facilement, quoi.
Un rapt à l'italienne, donc, ce matin à Paris, le baron Édouard-Jean Empain, 41 ans, roi de la finance et de l'acier, a été enlevé devant son domicile de l'avenue Foch par plusieurs hommes armés, au moins 5. Visiblement, les ravisseurs sont des professionnels. Ils se sont servis d'un vélomoteur et de 2 camionnettes, une Peugeot de couleur crème, avec faux numéro, et une estafette bleue. Ils avaient placé les 2 camionnettes en quinconce, formant une sorte de chicane dans la contre-allée de l'avenue Foch. Le chauffeur du baron Empain était obligé de s'arrêter. Un enlèvement imparable, réglé à la seconde près.
On l'enlève et on peut l'emmener à la planque que de nuit. Donc il y a une étape dans un box dans Paris où on a passé la journée avec lui. Ce qu'il faut, c'est terroriser notre otage. Donc on se fait passer pour des gros méchants. Évidemment, il flippe. Il nous demande « Vous êtes des politiques ou... ?» Je lui dis non, c'est un enlèvement crapuleux, tout ce qu'il y a de crapuleux. Ce qu'on veut, c'est de la thune. Il faut savoir qu'il avait quand même les pinces dans le dos. Enfin, il avait des menottes et il était entravé, il ne pouvait pas...
Vous étiez combien à le garder dans le box?
On était 2. On était armés, évidemment, nous. Empain, il était saucissonné, mais enfin, il pouvait parler. Il était assis à l'arrière. Bon, on a attendu et à 18h, bon, on a dégagé. Il est rentré dans le coffre, les voitures à leur pile étaient dehors, qui nous escortaient, et on est parti vers la planque. Donc, nous, on arrive avec la bagnole, il y a des gens qui nous attendent, et là, il faut faire 1 kilomètre dans les bois. Pas de lampe, etc. C'est pas qu'il y a des voisins, mais il y a des habitations, peut-être à 1 kilomètre, où il y a toujours des mecs qui se baladent la nuit avec des chiens, on ne sait pas. Donc, ça a été très long, c'était une procession en file indienne. Et puis là, après, dans les galeries, on avait des casques avec des lampes de mineurs. Et Empain, il a dû se faire du souci, hein, je sais pas.
Il disait rien, toujours?
Non, non, ça aurait compliqué les choses. S'il avait râlé ou s'il était débattu, ou c'est... qu'est-ce qu'il faut faire après? Le mec, il faut l'assommer ou il faut le rouer de coups, ou il faut... Alors que là, ça s'est passé, on lui a pas mis un coup. Et on est arrivé à l'endroit où on avait décidé qu'il séjournerait, quoi. On lui avait préparé une tente. On lui a dit de rentrer dans la tente. On lui a filé à boire, bon, machin. On lui a dit, maintenant, prends ton temps, machin, on va te filer une lettre tu vas la lire tranquille, tu nous diras ce que t'en penses. Donc dans la lettre, on lui dit qu'on lui demande
80 millions de francs.
Qui serait équivalent, on va dire, donc à 12 millions d'euros aujourd'hui.
Voilà. Bon, c'est rien, quoi. Et nous, justement, on était autour de la tente, là. Okay. Voilà. On a le jackpot ou on ne l'a pas ? Silence radio. Et d'un seul coup, mais vous êtes fous ! C'est impossible ! On lui dit, ça y est, il commence son cinéma. Voilà, parce qu'on était persuadés qu'il était blindé de chez blindé. Donc on se dit, ils sont terribles pour leur prendre un tout petit peu de monnaie. Mais vous êtes fous, jamais, j'ai cet argent. Je dis, allez, arrête. De toute façon, il était prévu de lui couper le doigt. Qu'ils disent oui ou qu'ils disent non. Par contre, sur le doigt, pas un mot, pas du genre, ah, vous allez me couper le doigt, c'est dégueulasse, faites pas ça, on peut s'arranger. Non. On n'insiste pas. Je me dis, de toute façon, on passe à la suite du programme. On prépare, et je ne sais pas quelle heure il est, bon, on prépare la potion magique, comme du Valium 100 aujourd'hui, mais plus fort peut-être encore. Donc il boit. Évidemment, hein, 20 minutes ou une demi-heure après, boum, il tombe, comme un gros bébé. Il faut passer à la boucherie. On n'avait pas décidé qui le ferait. Et donc tous les quatre, on s'est regardés, il n'y avait pas de volontaire. Alors courte paille. Et c'est tombé sur un de nous. On avait un massicot.
C'est une lame très tranchante, voilà. Qui tombe comme un couperet.
Donc vous appliquez un massicot sur le petit doigt et avec une petite massette, vous donnez un coup. Donc nous, on lui a fait à la jointure du petit doigt, là. On a fait le mieux possible, quoi.
Dans l'actualité de cette journée, l'affaire Empain, le contact est bien établi avec les ravisseurs. Ceux-ci ont adressé aux familiers du baron trois pièces qui permettent à coup sûr de prouver qu'ils détiennent bien le baron. Dans un premier envoi, ils ont déposé à la consigne automatique de la gare de Lyon une lettre manuscrite du baron et sa carte d'identité. Dans un deuxième paquet déposé à la consigne d'une autre gare, on a retrouvé un doigt, l'auriculaire enveloppé dans du coton, mais rien ne permet cependant d'affirmer qu'il appartient à l'industriel.
Et quand on a Monsieur Engen au téléphone, Monsieur Engen, qui était le bras droit de Monsieur Empain, il nous dit, c'est trop. Il nous dit, mais j'ai 30 millions là, Creusot-Loire, dans le coffre. Je vous les apporte tout de suite. Et on a refusé. Je me suis dit, ils se foutent de notre gueule, ces enfoirés. Il va falloir qu'ils payent. Et alors, c'est là que je me suis un peu emballé, parce que je me suis dit, ben, puisque c'est ça, ils vont casquer. Donc, raccrochage du téléphone, de notre part.
C'était la moitié de ce que vous aviez demandé.
Des années après, on se dit, mais comment on a pu faire une telle connerie ? Mais comment on a pu être aussi con ? C'est pas possible. Au lieu de réfléchir un tout petit peu, et de se dire, attends, on prend 4 milliards en 3 jours, on se dit, mais ils se foutent de notre gueule, ces enfoirés. Ah ben si c'est comme ça, ben ils vont voir. Mais ils vont voir quoi ? Connard que je suis, ils vont voir quoi ? Surtout 40 millions à l'époque, c'est beaucoup d'argent. Être resté dans notre bulle de connard, là, qu'on préparait un truc, qu'on décidait à l'avance comment ça se passerait, et qu'ils ne sont pas capables de modifier leur décision au vu des circonstances. On a été vraiment mauvais, là, de toute façon, on méritait la prison, voilà. Rien que pour ça, tiens. Voilà. Quand vous dites, ah bon, puisque c'est ça, on va vous envoyer un pied, alors qu'on ne le fera pas. C'est là qu'on merde, parce que si on dit on va vous envoyer un pied, il faut l'envoyer. Alors, on a fait le doigt, parce que c'est... Mais on ne peut pas aller plus loin, déjà, bon. Et la connerie, c'est d'avancer des trucs, des menaces, qu'on n'est pas capable de mettre à exécution. Ça aurait dû payer sans discuter. Et ça, c'est notre erreur à nous. Il fallait prendre quelqu'un qui est cash, qui est liquide. Il aurait fallu prendre Liliane Bettencourt, voilà.
Et là, justement, donc, le temps passe. Comment ça se passe avec Empain ? Est-ce que vous en parlez avec lui ? Est-ce que lui,
alors,
il dit...
Alors là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi ils ne veulent pas ouvrir la cassette. L'entreprise, ça renacle. La famille, les amis. Parce que les sommes étaient, comme les sommes étaient importantes, ben les gens, oui, mais on veut des garanties. Qu'est-ce qu'il y a comme garantie ?
Des garanties de quoi ? D'être remboursé ?
Mais exactement comme vous faites un prêt immobilier.
Et lui ?
Lui, il a eu de la peine. Quand vous êtes dans une situation comme la sienne, c'est des montagnes russes. L'abattement, la colère, l'abattement. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, silence radio. On va les laisser mariner. Quand ils sont de bonne humeur, on les recontactera.
Et là, ça faisait à peu près combien de temps? Un mois.
Moi, ça fait je sais pas combien de temps que je suis pas redescendu à Montpellier. Je pars au sport d'hiver avec ma femme et mon gosse pour me faire aussi un alibi que les gens. Voilà. Quand je suis au sport d'hiver, Daniel reprend contact avec eux. Et là, la brigade criminelle avait repris toute l'affaire en main. Et ils disent, oui, on paye. Et Daniel me dit, on avait un truc pour communiquer, il faut que tu rentres tout de suite. On va toucher, je crois. Et le lendemain matin, je remonte à Paris. Et Daniel me dit, c'est bon, on touche. Je lui dis, t'es sûr? Il dit, oui. Et j'ai rien demandé de plus. J'ai été léger. J'ai voulu y croire d'une manière absurde. On avait tellement bossé là-dessus. On s'était investi. Nuit et jour, j'ai bossé là-dessus pendant un an. Putain, pour le relâcher. Je pouvais pas. Alors, à un moment, justement, on avait voté pour le... Parce que une idée, quand ça payait pas, on le tue, on le met dans le coffre d'une voiture comme Aldo Moro, on le prend en photo, et c'est tout. Bon.
Et ça servait à quoi de le tuer, là?
Deux mois ou deux ans après, vous enlevez quelqu'un d'autre. Simplement, voilà, nous...
C'était pour faire un exemple, pour se dire, prochain, alors, ça marchera.
Moi, j'étais à tel point dans le truc de cette logique que quand on a voté, moi, j'ai voté la mort.
Sensationnel rebondissement, donc, dans l'enlèvement du baron Empain. La nuit dernière, les ravisseurs du financier ont été interceptés par la police au moment où ils tentaient de toucher la rançon qui était réclamée. Une fusillade a éclaté entre gangsters et policiers. L'un des bandits a été tué, deux autres blessés. Deux policiers ont également été touchés. Toute l'affaire débute dans la soirée sur l'autoroute A6, l'autoroute des vacances, à la hauteur de la commune de La Haye-les-Roses. Les enquêteurs disposent donc maintenant d'un atout précieux. Un complice des ravisseurs est entre leurs mains. Il s'agit d'Alain Cailleul, un truand chevronnier bien connu de la brigade anti-gang. Dès cette nuit, il a été très longuement interrogé.
Moi, ma voiture, les quatre pneus sont crevés. On a 70 impacts de balles dedans, donc elle ne peut pas rouler. Et quand ils arrivent, ils se précipitent sur nous, ils ouvrent la portière. Daniel, il a roulé sur le côté, il est mort là en une minute.
Et vous aviez quoi comme blessure?
Alors moi, je lève les mains et il y a un policier qui me tire donc dans le dos, qui doit être à 7 ou 8 mètres derrière la bagnole. Et donc je prends deux balles dans le bras gauche à la hauteur du coude et du gras. Enfin, le mec, il tire pour me tuer, quoi. C'est un espèce de moment de sidération. Moi, j'ai vu mon pote, mais je l'ai vu en fait mourir quand ils ont ouvert la bagnole. C'est pas dans les journaux ou à la télé, c'est la violence, vous la ressentez vraiment en vous, mais pas forcément la vôtre, celle qui... Les climats de violence et tout, c'est un truc, ça pue quelque part, c'est pas clean, quoi. C'est pas bon. Et puis, alors, l'odeur, c'est vrai que l'odeur... Alors là, en plus, ça se passe sur l'autoroute et tout. Les bagnoles, l'huile, la poudre, des gens qui dégueulent du sang... qui se font frapper, comme moi aussi, c'est pareil. Bon, ils m'ont défoncé la gueule. C'est un côté... il vaut mieux être dans un transat au bord d'une piscine. Ouais. Mais ça serait aujourd'hui, l'affaire, elle s'arrêterait au bout de 3 jours, parce que quand ils nous ont dit, on a 3 milliards chez Creusot-Liard, j'aurais dit, apporte. Voilà, on aurait plié, on l'aurait lâché. Voilà, au lieu de faire les espèces de connards, là. Mais ce qui m'inquiète un peu... Parce que vous vous dites, j'ai fait telle ou telle opération, merde, là, j'ai fait une connerie. Bon, ça arrive à tout le monde. Tandis que là, les conneries, il n'y en a pas eu une. Hein. Il y en a eu 5, il y en a eu 10. Et ça fait beaucoup. Pour des gens qui choisissent des vies extrêmement dangereuses, où il ne faut pas faire la moindre erreur. Et là, je me dis que finalement, j'étais peut-être pas fait pour ça.
Je ne sais pas si vous avez calculé ce que vous aviez perdu dans cet enlèvement, en termes d'argent, en termes d'années de prison?
Alors non. J'ai perdu là-dedans, j'ai perdu mon fils. Mon fils, je l'ai abandonné, donc je suis un salopard. Voilà. Point à la ligne. Et ça, qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, mais mes garçons, t'as jamais j'ai voulu ça. Et puis il y a des choses, même si on peut les entendre, c'est trop tard. On s'en fout un peu. Well, what we wonder, you're such a success. You're pretty secretary. Ha! She say you are the best. Your face always smiling. Say you're stupid, you dues. But I know inside you got dancerless blues. Those custom-made sugars that you offer to me, pretending to care about my family. And those pictures on your desk, all them lies that you abuse, do they know you suffer from the pensionless blues?
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Salomé Patro et Alain Cayolle, un reportage de Pascal Pascariello, réalisé par Assiar Khalid avec un coup de main de Philippe Baudouin, au mixage Bernard Laniel, Doc Ina, Isabelle Fort Rendu. Merci bien sûr à Alain Cayolle, à Céline Autin qui est notre stagiaire et à Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre.
Still embarrasses you. You're even ashamed of the friends you once knew. You're the bore of time now, baby, you're making the news. But I know inside you got the pensioner's blues. But thanks for the lesson, the life that I choose, it won't be feel like living with the pensioner's blues. And don't try to write me, and don't bother to call, 'cause I'll be in conference. Merry Christmas, you all.